Et c'est l'heure de votre émission Dialogue entre Congolais avec Kelin Kouté.
Bonsoir. Rencontre hier, mardi, au Palais de la Nation à Kinshasa, entre les chefs de l'État et les officiers des FARDC et de la police. À cette occasion, le chef de l'État a rappelé le rôle de l'armée dans le maintien de l'intégrité territoriale et de la paix. Joseph Kabila a aussi annoncé les priorités pour l'armée et la police, entre autres l'amélioration des conditions sociales et le parachèvement du contrôle biométrique. Comment analyser la déclaration du chef de l'État aux officiers de l'armée et de la police? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 18 mai 2011. Pour en parler, je reçois dans cette émission Mohamed Boulet, député national de l'opposition, membre du MLC et rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est général à la retraite. Mohamed Boulet, bonsoir.
Bonsoir.
André Alain Atundu Liongo, président de la Convention pour la démocratie et la République, membre de la majorité présidentielle. Il est ancien ambassadeur et ancien chef des services de sécurité. Il est avec moi dans ce studio. André Alain, bonsoir.
Bonsoir.
Et maître Juvenal Mounoubo, coordonnateur pour le Nord Kivu du réseau de la société civile pour la réforme du secteur de sécurité et de justice en RDC. Il est en ligne, maître Juvenal, bonsoir.
Bonsoir, Kéline.
Vous êtes déjà très nombreux à envoyer vos réactions. C'est le cas de Joseph de Bounia en province orientale. Cette déclaration ne vient que remonter le moral de notre armée et police. Mais la traduction de cette déclaration en acte était notre attente depuis le début de cette législature. Mais en vain. Guy Moussengouzi de Lubumbashi au Katanga, conscient de la délicatesse des conditions de vie dans lesquelles militaires et policiers congolais exercent leur mission. Pourquoi le chef de l'État, Joseph Kabila, n'est-il pas passé directement à la vitesse supérieure que de l'annoncer dans un message devant les officiers FARDC et de la police en cette veille électorale? Merci de nous suivre à Kananga sur la 93.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiokapi.net.
À l'approche des élections en RDC, le chef de l'État rappelle aux militaires et policiers les valeurs républicaines qu'ils doivent défendre pour sauvegarder la jeune démocratie congolaise. Au cours d'un repas des corps qu'il a offert ce mardi aux officiers FARDC et de la police au Palais de la Nation, Joseph Kabila a expliqué à ses convives leur rôle de maintien de l'intégrité territoriale et de la paix. Par ailleurs, conscient de la délicatesse des conditions de vie dans lesquelles ils exercent leur mission, le président de la République a circonscrit quelques priorités pour l'armée et la police. Les propos de Joseph Kabila ont été recueillis par Jeff Ngoy.
La réhabilitation des casernes existantes, l'aménagement et la construction de nouvelles casernes, la réfection et l'érection des infrastructures médico-sanitaires, l'amélioration des soins de santé, la réinsertion sociale des veuves et orphelins des militaires et policiers, la prise en charge effective des blessés de guerre et des retraités, la formation et le renforcement des capacités des éléments de nos unités, le parachèvement du contrôle biométrique et des effectifs en cours dans la police nationale, mais déjà terminé dans l'armée, et l'acquisition d'équipements collectifs et individuels pour une montée en puissance et une modernisation de nos forces armées et de la police. Le peuple congolais est appelé à aller aux élections. Plus que jamais, attend de vous loyauté aux institutions de la République, dignité, discipline et patriotisme.
À en croire le chef d'état-major général des FARDC, depuis plus de 15 ans, l'armée n'a pas vu des journées lui consacrées. Ce repas des corps constitue une première qui permet aux officiers de fraterniser. Le général Didier Toumba a renouvelé de manière collective leur loyauté à la République et attachement au commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise. André Alain Atundu, vous êtes président de la Convention pour la démocratie et la République. Vous êtes membre de la majorité présidentielle, ancien ambassadeur et ancien chef des services des renseignements. Comment vous analysez la déclaration du chef de l'État aux officiers supérieurs de l'armée et de la police?
Merci beaucoup. Je trouve que c'est une déclaration importante que je peux résumer en 3 à 4 parties. D'abord, ce n'est que justice. vis-à-vis des forces armées, c'est-à-dire des citoyens qui, dans des conditions difficiles et inédites, nous ont assuré quand même l'essentiel, c'est-à-dire l'intégrité territoriale, l'ordre public, malgré quelques dérapages. Deuxièmement, le chef de l'État a abordé des questions essentielles, notamment concernant la conversion républicaine de notre armée, c'est-à-dire la conversion des mentalités. Il faut maintenant quitter la mentalité des guérillas, mentalité des guerres, pour une mentalité d'excellence, de discipline. Deuxièmement, le changement politique, une conversion politique, se conformer aux réalités de la démocratie, c'est-à-dire la transparence, le respect des droits de l'homme. Troisièmement, la conversion sociologique, c'est-à-dire épurer où tous les éléments qui ne sont pas aptes à rester dans l'armée, comme les enfants, ceux qui considèrent l'armée comme un refuge de brigands, etc. Donc il faut épurer cela et enfin une conversion structurelle, adapter l'organisation de notre armée aux exigences modernes que nous devons affronter. Enfin, il y a la conversion stratégique, c'est-à-dire la redéfinition de notre politique de défense en fonction de nouveaux dangers identifiés, etc. Et enfin, une meilleure, le chef de l'État a pris l'engagement au nom de l'État d'assurer une meilleure prise en charge des militaires vivants et morts, n'est-ce pas, de leurs familles, des veuves, des orphelins, etc. Ceci est important pour que les militaires puissent agir, prendre le risque de leur vie en toute sérénité, si on peut ici s'exprimer.
Alors, il rappelle le rôle de l'armée dans le maintien de l'intégrité territoriale. Est-ce que c'est parce qu'il a constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au sein de l'armée ?
Non, j'ai dit que c'est justice. Parce que avec l'éclat, n'est-ce pas, des scandales occasionnés par des éléments des forces armées qui ont éclaboussé l'ensemble du corps, il était normal et nécessaire, je dirais, que l'armée sache que la nation n'oublie pas leur sacrifice, leur rôle irremplaçable, non seulement dans l'intégrité, la défense du pays, dans l'ordre public, mais aussi dans l'avènement de la démocratie.
Pourquoi maintenant seulement, à la veille des élections ?
Non, il ne faut pas établir un rapport. Je pense que le chef de l'État est chef de l'armée jusque au 6 décembre. Il doit, tant qu'il est là, il ne peut pas mettre entre parenthèses un problème qui se pose en disant « bon, maintenant, c'est presque, sinon on dira non ». C'est faire montre de grandes responsabilités que de dire « d'ailleurs, il a rappelé le rôle dans la sauvegarde de la démocratie, l'apolitisme de l'armée ». Il a rappelé les valeurs essentielles. Et je crois que là, il est dans son rôle de commandant en chef, et ce qui est tout à fait, on peut dire, à son honneur.
Alors, il y a cet auditeur de Bounia en province orientale, il s'appelle Joseph, qui dit ceci. Cette déclaration ne vient que remonter le moral de notre armée et police, mais la traduction de cette déclaration en acte était notre attente depuis le début de cette législature, mais en vain.
Oui, le président a comme rôle de rappeler les grandes lignes, mais il ne fait pas, il ne réalise pas tout ce qu'il dit tout seul. Le Parlement doit voter les lois nécessaires, notamment la loi organique, la loi de programmation militaire, etc. Ce sont des lois qui sont au Parlement. Eh bien, le gouvernement doit collecter et capturer les ressources nécessaires pour que l'État ait les moyens de s'occuper de l'armée comme d'une de nos premières priorités. Bon, enfin, l'opinion doit quand même rendre justice, n'est-ce pas, à nos militaires qui se font tuer pour que nous restions en vie, et qui vivent dans des conditions difficiles pour que nous ayons un peu de sécurité. Et cela de la bouche du chef de l'État, à la fois en tant que commandant suprême et garant de la bonne marche des institutions, symbole de la nation, Je crois que c'était la voie la plus autorisée et chacun de nous s'est reconnu dans ce qu'il a déclaré.
Merci Alain Atundu. Mohamed Boulé, vous êtes député national de l'opposition et membre du MLC. Vous êtes rapporteur de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes général à la retraite. Vous, comment vous avez analysé ce tête-à-tête entre le chef de l'État et les officiers de l'armée et de la police?
Merci beaucoup. Les officiers de l'armée et de la police étaient à l'honneur pour tous leurs collègues, parce que vous comprenez bien que ces hommes et femmes organisés et chargés des tâches constitutionnelles pour assurer l'intégrité du territoire, nos forces armées ont certainement connu un chemin, un parcours depuis leur création le 4 juillet 1988. Nous sommes là sous la colonisation, en passant par l'armée nationale congolaise, la période de 1960 à 72. Les forces armées zaïroises de 72 à mai 77. Et après, on a connu différents mouvements, des combattants, des rébellions, pour qu'en fait le 13 novembre 2004, qu'on ait mis en place une armée nationale républicaine, les forces armées, la République démocratique du Congo, qui ont ses missions constitutionnelles. Mais un tel événement a son importance, parce que c'est là aussi qu'il peut, lorsque les officiers et les hommes de rang se trouvent auprès du chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées, c'est un honneur, en mémoire de tous ceux qui sont vivants, et de ceux qui sont morts, et puis d'autres qui ont connu les accidents de parcours, je vais dire les blessés des guerres. Ça leur remonte le moral, comme a si bien dit un auditeur de tout à l'heure. Ça leur rappelle qu'ils ne sont pas oubliés. Mais c'est que le chef de l'État l'a dit, parce que le domaine de l'armée, tout comme le domaine de la diplomatie, c'est un domaine de collaboration, ça veut dire que c'est au gouvernement de s'approprier de ce que le chef de l'État l'a dit, pour pouvoir exprimer ça en termes de réalisation, en termes de programmation, pour que tout cela soit budgétisé. Parce que lorsqu'on parle de construction des infrastructures, de l'habillement, des équipements, ce n'est pas avec le budget national. En dehors du budget national, il faut une loi de programmation qui est une loi pluriannuelle pour pouvoir concrétiser ça dans les temps. Et c'est au gouvernement, je n'ai cessé de le dire comme dans les autres émissions, de pouvoir mener des démarches diplomatiques et pour avoir le financement nécessaire pour pouvoir réaliser cela. Parce que tout ce que
cette loi doit venir d'où? Vous parlez des lois pour
mais la loi de programmation, c'est le gouvernement qui doit l'élaborer et venir défendre en même temps, comme on le fait pour la loi des finances, défendre devant l'Assemblée nationale pour qu'on lui donne le quidus, pour que nous puissions le voter. Et en ce moment-là, le gouvernement va mener des démarches nécessaires auprès des bailleurs des fonds pour avoir les financements nécessaires. Parce que ce n'est pas avec les budgets ordinaires que nous pouvons nous permettre que le gouvernement puisse concrétiser ce que le chef de l'État l'a dit. Alors, il faudrait que dès l'année prochaine, l'année budgétaire, je vais dire l'année budgétaire prochaine, que tout ce que le chef de l'État a dit puisse réellement s'intégrer. Mais c'est là. Il faudrait cet arsenal juridique qui doit sortir de nous, parce que au niveau de nos deux chambres, nous sommes en train d'examiner les lois qui permettront au gouvernement, une fois promulgué, de pouvoir se mettre réellement à exécuter, à réaliser les réformes des forces armées.
Ça fait quand même longtemps que vous examinez ces lois.
Oui, ça fait quand même longtemps, parce que vous savez que l'exercice auquel nous sommes soumis, lorsqu'une loi est déposée dans l'une des chambres, on fait la première lecture pour passer dans l'autre chambre. S'il arrive que on adopte en termes étatiques, le problème ne se pose pas. Mais s'il y a divergence, si l'un ou l'autre point, il y a des mécanismes qui font que on puisse se mettre ensemble dans ce qu'on dit commission mixte paritaire pour pouvoir dégager la monture qu'il faut soumettre donc au chef de l'État pour la promulgation.
Alors, il y a cet auditeur, Mohamed Boulé, guide de Lubumbashi, qui dit ceci, conscient de la délicatesse des conditions de vie dans lesquelles les militaires et policiers congolais exercent leur mission, pourquoi le chef de l'État, Joseph Kabila, n'est-il pas passé directement à la vitesse supérieure que de l'annoncer dans un message devant les officiers FRDC et de la police en cette veille électorale?
Mais vous savez, le chef de l'État ne peut pas passer tout seul à la vitesse supérieure. Mais pour gérer au quotidien les affaires de l'État, c'est le gouvernement qui doit, je l'ai dit ici, s'approprier de ça. Ce n'est pas en cette année finissant, nous sommes déjà presque vers le mois de juin, et que vous comprenez que le budget qui était voté peut-être n'a pas pris en compte ce que le chef de l'État a dit. Ce n'est qu'un rappel. Normalement, ça, on le prend toujours en compte, mais on ne peut pas se suffire avec les budgets ordinaires. Je ne cesserai de le dire, il faut une loi de programmation et pour les forces armées et pour la police nationale pour concrétiser et voir ça. Et ça doit s'échelonner dans le temps. Ce n'est pas en une année. Une loi de programmation, c'est une loi pluriannuelle qui peut couvrir l'espace de 8-10 ans. Et alors, lorsqu'on aura voté ça, ça veut dire que c'est la capacité du gouvernement d'aller vers les bailleurs de fonds pour obtenir ça et pouvoir réaliser à un 12e chaque année de ce qu'il aura effectivement reçu dans sa caisse.
Et donc, à vous entendre parler, ce changement ne peut pas intervenir dans un ou deux ou trois mois. Il faut attendre plusieurs années.
Mais il y a déjà des réalisations. Moi, je vois les messages, disons, la réplique du chef d'état-major général lorsqu'il fait le point de la situation. Il y a des réalisations. Lorsqu'on parle des régiments, et donc il y a des choses qui peuvent être facilement. Il faut commencer par les choses les plus simples. Par exemple, la formation, on n'a pas besoin certainement de faire venir des techniciens à l'étranger, tout ça. Nous avons l'expertise qu'il faut. Mais ce qu'il faut ici, c'est le matériel, parce que il faut avoir des matériels modernes. Il faut mettre les militaires dans les conditions. Il faut également entretenir leur état de santé, leur environnement. C'est cela. Donc, c'est chaque année, il faudrait consacrer et tout ça, l'argent, le budget. Mais tout cet argent-là, ça se trouve où? C'est dans les poches des contribuables que vous êtes, que nous sommes tous. Merci, il faudrait que les gens aient vraiment cette culture-là de paiement d'impôts pour espérer avoir les réalisations.
Merci Mohamed Boulé. Maître Juvenal Mounoubo, vous êtes coordonnateur pour le Nord Kivu du réseau de la société civile pour la réforme du secteur des sécurités et des justices en RDC. Comment vous analysez la déclaration du chef de l'État aux officiers de l'armée et de la police? Allô, maître Juvenal. Je crois qu'on a un petit problème avec la ligne de maître Juvenal. La réalisation va essayer de le retrouver. André Alain Toundou, le chef de l'État, a aussi promis le parachèvement du contrôle biométrique et des effectifs en cours dans la police nationale, mais déjà terminé dans l'armée. Ça aussi, c'est un grand problème que connaît l'armée nationale et la police.
Non, que ne connaît plus l'armée nationale, puisque le chef de l'État a dit c'est terminé au niveau de l'armée. Alors maintenant, au niveau de la police, ça doit continuer. Mais je pense que l'élément important, c'est ce que vient de souligner le général Boulay, la coopération internationale. Parce que pour vous donner une idée, n'est-ce pas, que le budget ordinaire aujourd'hui ne peut pas suffire, c'est que pour parachever la montée en puissance de notre armée, il faut au moins un budget ordinaire de 7 milliards. Au moins. Et presque autant de budget extraordinaire pendant 5 ans. Donc cela fait à peu près, s'il faut prendre le paramètre de 10 ans, c'est presque 70 milliards pour les 10 ans. Et donc aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Donc ça signifie que chacun doit faire l'effort nécessaire. Nous les contribuables, le gouvernement dans la recherche des fonds et dans la capturation de ces fonds, une bonne affectation, etc. Et en même temps, pondérer avec les autres besoins tout aussi urgents. Donc, je pense que effectivement, le chef de l'État a eu raison de rappeler d'abord le travail indispensable de notre armée aujourd'hui, déjà pour hier et pour demain surtout. Parce que aujourd'hui, les dangers ne sont plus seulement à partir de nos frontières. Les dangers sont aujourd'hui stratégiques, géostratégiques. Et donc notre armée doit être capable de se doter de ses satellites propres, de ses drones, de ses ceci, de cela, toutes sortes de matériel militaire qui ne peuvent suffire à un budget de 7 milliards pour un pays.
Voilà, la réalisation me signale que Maître Juvenal est en ligne. Maître Juvenal, vous m'entendez?
Oui, je vous entends, Kéline.
Alors, je disais, comment vous analysez, vous, la déclaration, j'allais dire, du chef de l'État aux officiers de l'armée de la police?
Tout d'abord, je voudrais saluer l'honorable Boulet ainsi que M. Atundu. Je voulais saluer aussi tous nos auditeurs. La déclaration du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de la Constitution. Donc, lorsqu'on lit l'article 83 de la Constitution du 18 février 2006, il est dit expressis verbis, le président de la République est commandant suprême des forces armées. Donc, ce n'est que normal que le chef de l'État ait réuni des officiers supérieurs des FRDC ainsi que de la police pour, premièrement, recevoir. Il fallait que ces officiers reçoivent effectivement les priorités telles que tracées par rapport à l'armée congolaise, mais également par rapport à la police. Mais aussi, c'est en fait une exhortation aussi, parce qu'il faut savoir que notre armée, notre système de défense, notre système de sécurité est en restructuration. Et un système en restructuration, les rappels des valeurs fondamentales, des valeurs républicaines, c'est quelque chose de très important. Et donc, c'est une démarche justifiée sur le plan juridique, et même sur le plan de l'opportunité et sur le plan politique. Pourquoi ? Parce que notre système de sécurité est en restructuration. C'est aussi justifié, pourquoi ? Parce que les moments, la période préélectorale, la période électorale, c'est des périodes sensibles, hein, souvent qualifiées comme étant des périodes sensibles, et les forces de l'ordre. Donc je vois ici l'armée, je vois la police, je vois les services de sécurité, doivent être sensibilisés sur les valeurs qui font de la République. Pourquoi ? Parce que c'est un tournant décisif où la démocratie s'exprime en fait dans notre pays. Donc c'est louable, donc je souscris tout à fait à cette initiative, comme l'ont dit d'ailleurs mes prédécesseurs, mais les gros ici, les gros, comme l'a reconnu l'honorable Mohamed Boulet, c'est l'application de tous ces de toutes ces recommandations par rapport aux lois, au cadre juridique de l'armée, par exemple. Je voudrais rappeler ici que c'est depuis le 13 octobre 2010 que la loi a été adoptée, la loi organique des forces armées, et bien sûr conformément à l'article 191 de la Constitution qui prévoit qu'il y ait une loi organique. Mais depuis ce temps-là, cette loi n'a jamais été promulguée. Vous voyez vous-même que la réforme du secteur de sécurité, en l'occurrence ici la réforme de l'armée, devrait être perçue comme une priorité. Et je crois que cette déclaration du chef de l'État a valeur aussi d'exhortation au niveau des députés pour qu'ils fassent un effort au niveau de sénateurs pour apprêter tous ces documents-là qui constituent le cadre juridique et réglementaire de notre secteur de sécurité. Il en est de même pour la loi organique de la police. Les projets de loi traînent toujours au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une bonne démarche et je pense que ça devrait continuer, des concertations de ce genre-là, pour voir, voilà, les valeurs fondamentales qui forment une république. Le moment électoral, c'est un moment crucial et les forces de l'ordre doivent agir, comme l'a dit le chef de l'État, avec loyauté, dignité, discipline et patriotisme. Donc, c'est tout à fait une démarche légale et qui a une justification réelle sur le plan de l'opportunité politique.
Alors, Maître Juvénal, le chef de l'État a promis la réhabilitation des casernes existantes, l'aménagement et la construction des nouvelles casernes. Qu'est-ce qui motive, selon vous, le chef de l'État à faire toutes ces promesses maintenant?
Oui, je pense il faut pas aussi scélérer, hein, croire que tout ça va se réaliser avant décembre. Je crois qu'on serait en train de se tromper parce qu'il ne reste pratiquement que 5-6 mois, si je fais bien le calcul. Mais c'est bien d'avoir une projection, parce que gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est planifier. Et si le chef de l'État, le président de la République a énuméré des priorités, moi je me dis déjà que c'est quelque chose de bon. Mais il ne suffit pas d'énumérer des priorités, il faudrait arriver à concrétiser cela. Et comment concrétiser cela? Il faut doter le pays des lois, parce que la Constitution ne fait que poser des principes. Il faut qu'il y ait des lois organiques, il faut qu'il y ait des statuts autonomes, tant pour le policier, pour le militaire. Il faut qu'il y ait la loi de programmation, comme l'a dit l'honorable Boulet. Il faut tout ça pour donner du poids à la Constitution, pour donner application à la Constitution. Donc il faut faire un pas dans ce sens-là. Mais aussi, il faut évoluer effectivement dans la dotation en matériel, en équipement nécessaire de notre armée. Pourquoi ? Parce que la plupart des cas, c'est des matériels en état vétuste. Et bien sûr que ça a été renouvelé, mais le renouvellement n'est pas encore celui attendu. Il faut des bons matériels et insister aussi sur la maintenance de ces matériels-là. Et pas donner un véhicule aujourd'hui à la police, un véhicule à l'armée, pour que les véhicules s'abîment après 6 mois. Il faut insister sur une bonne maintenance de ces équipements-là, c'est très important. Il faut insister sur l'esprit des corps qui doit régner au sein de nos forces armées. Parce que l'histoire récente de notre pays démontre effectivement que les éléments des forces armées qui composent aujourd'hui l'armée congolaise viennent des ex-groupes armés. Et il faudrait que cet esprit des corps soit une réalité au sein de l'armée. Il faudrait qu'il y ait, je vais dire ici, une réconciliation au sein de l'armée. Parce que l'autre paire de manches, c'est aussi la réconciliation entre notre secteur de sécurité qui a été accusé des temps de maux avec la population. Donc une réelle réconciliation, par exemple, entre la police et la population, ça passe évidemment par ce que le CSRP est en train de prévoir, entendu ici les comités de suivi de la réforme de la police de proximité, des cadres de concertation comme le conseil local de sécurité, c'est des bons cadres où on se défoule et on essaie tous ensemble de voir comment définir ensemble un projet local de sécurité. Donc tout ça, c'est des choses au-delà donc du discours du chef de l'État qui a grandement valeur d'une exhortation. Il faudrait que les institutions s'attellent maintenant, que le Parlement apprête des lois, que le gouvernement apprête les budgets nécessaires. Et je sais que la bonne volonté de la communauté internationale est là, que la société civile soit associée aussi à toutes ces initiatives dans des réflexions pour voir dans quelle mesure faire avancer. Alors, on arrive finalement à réformer notre secteur de sécurité parce qu'on en a parlé depuis l'accord global.
Maître Juvenal, vous allez répondre brièvement à cette réaction d'Alfred qui dit ceci. Les déclarations du président de la République sont excellentes, mais tant que les éléments des FARDC et de la police non qualifiés issus des différents groupes rebelles seront là, tous ces efforts resteront vains.
Bien évidemment, il reste un problème réel, hein. C'est le problème des groupes armés non signataires des accords du 23 mars 2009. Je crois que c'est un problème réil et je sais qu'il existe, il y a un comité de suivi institué même par ces accords, mais le comité national de suivi ne se réunit pas. On a eu à en parler au cours d'une émission Dialogue entre Congolais qui a précédé. Donc je crois qu'il serait mieux de réactiver, de redynamiser un peu ces comités-là, de faire les suivis, qu'on arrive à une application effective de ces accords-là. Et il faudrait qu'on arrive à régler l'essor, évidemment, des groupes armés. Et vous savez qu'il y a des groupes armés qui sont nés même après la signature des accords. Tout ça, ce sont des problèmes et il faudrait que le gouvernement s'y attelle. Je suis convaincu personnellement, parce qu'il faut être réaliste, que pour les 5-6 mois qui restent avant la fin de l'année, il est pratiquement impossible de solder toutes ces questions, donc de les résoudre. Mais je crois y penser. Que le chef de l'État y fasse allusion au cours de son allocution, je crois que c'est quelque chose qui réconforte. Maintenant, il faudrait que les autres institutions prêtent main forte au chef de l'État, au président, pour qu'on aille de l'avant.
Et merci, maître Juvenal.
Je la connais, celle congolaise, elle est prête aussi à apporter sa contribution.
Merci, maître Juvenal. Mohamed Boulay, on revient encore sur les députés. C'est vous qui devez voter les lois nécessaires pour la réforme de l'armée, mais ça traîne à votre niveau.
Oui, merci beaucoup, parce que nous avons une certaine méthodologie à l'Assemblée nationale. Je crois que vous qui participez, les journalistes, je vais dire, et vous assistez à nos nombreuses séances, vous voyez quelle est la méthodologie que nous employons. Lorsqu'une loi est déposée en première lecture dans l'une des chambres, cette chambre, une fois vidée la question et adoptée en terme cette loi, et la passe, la loi ou le projet de loi passe en seconde lecture dans l'une des chambres. Le problème ne se poserait pas si les deux chambres adoptent le texte en termes identiques. Dans les cas d'espèce, il est vrai, nous avons eu adopté en première lecture dans notre chambre certaines lois, notamment sur le cours Conseil supérieur de la défense et d'autres, mais dans l'autre chambre, ils ne sont pas allés dans la même logique que nous. Ça veut dire que maintenant, nous devons constituer des commissions paritaires mixtes pour examiner dans les cas où les divergences persistent, donc c'est le texte est tel qu'adopté par l'Assemblée nationale qui passe. Et c'est à cet exercice-là que nous sommes en train de...
Vous risquez de ne pas adopter ces lois-là parce que nous tendons vers la fin de la législature.
Nous tendons vers la fin, je crois bien, nous avons encore le temps, nous devons accélérer les choses parce qu'il y a bien des lois prioritaires aussi sur les élections, tout ça, mais c'est bien programmé dans notre agenda de travail.
Alors on va prendre une réaction pour vous qui nous vient du Maroc, de la part de Edo Edgar.
Je réponds au nom de Karina, j'appelle depuis le Maroc, précisément à Casablanca. Le chef de l'État, il a fait beaucoup de promesses dans son discours hier, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des militaires et policiers. Je me pose des questions, si ça va prendre combien de temps la réalisation de toutes ces promesses et si ce n'est pas une façon de se confirmer en tant que futur président de la République à la veille des élections qui s'annoncent déjà.
Brève réponse, Mohamed Boulay.
Je l'ai dit ici, le chef d'État a énoncé. Je l'ai dit, il faudrait que le gouvernement puisse s'approprier de ça et concrétiser ça en termes de budget. Parce que il faut pas faire quelque chose qui ne soit pas budgétisé. Et donc, même pour construire une maison, il y a des étapes par lesquelles il faut commencer. Donc, nous disons que ce n'est pas en cette année ici, parce que nous tendons déjà vers la moitié de cette année budgétaire et que le budget est consommé, effectivement. Tout cela, nous attendons pour voir concrètement que l'année prochaine, l'année budgétaire qui vient, que toutes ces choses soient prises en compte. Je l'ai dit ici, ce n'est pas avec le budget ordinaire qu'on pourrait s'imaginer que tout pourrait se réaliser. Il faut à côté du budget ordinaire, le budget dit la loi de programmation. C'est avec ça que cela. Mais je suis rassuré que je dois dire ici que si on met à la disposition des forces armées. Les forces armées ont toutes les spécialités pour produire les matériaux de construction, pour réaliser des constructions, comme dans d'autres pays, comme en Égypte. Ici, à Kinshasa, il y a des exemples qui sont communs ici. C'est le génie militaire qui avait réalisé tout cela. Donc, il faudrait que le gouvernement puisse l'année prochaine, en plus de la loi ordinaire budgétaire, donc la loi du budget, le budget 2011-2012, je veux dire, qu'il amène aussi les budgets de programmation pour prendre en compte tout cela.
Et donc le chef de l'État devait commencer alors par demander au gouvernement d'élaborer d'abord cette loi de programmation avant de faire toutes ces annonces.
Mais ce n'est qu'un rappel, parce que nous n'avons cessé pendant nos discussions à ce que le gouvernement, en même temps qu'il amène le budget ordinaire, qu'à côté, qu'il y ait ça, mais... Le gouvernement est habité à un problème parce que tant que ces lois-là ne sont pas donc promulguées, ça pose un problème pour venir présenter la loi de programmation militaire.
Alors, André Alain Kondouria, merci Mohamed Boulay, à certains observateurs qui parlent d'absence d'une politique nationale de sécurité en RDC.
C'est invraisemblable. C'est invraisemblable parce que nous connaissons... Allez, ne serait-ce que les agressions auxquelles le président fait allusion et dont nous avons été victimes depuis la transition. Cela nous oblige à avoir une certaine politique et de renseignement et de l'armée, n'est-ce pas ? Ce n'est pas par hasard que aujourd'hui nous acceptons que les Américains s'installent à Kisangani. Ce n'est pas par hasard que le chef d'État a fait allusion à la conversion stratégique, à la conversion sociologique. C'est que nous connaissons les dangers et maintenant nous devons nous adapter à ces dangers-là. C'est ce qu'on appelle la politique. Et ici, l'exhortation du chef de l'État a pour rôle de dire aux militaires qu'il a une vision sur l'armée et sur notre défense. Donc, il s'est adressé à ces gens-là pour les rassurer, n'est-ce pas ? Comme il s'adresse au Parlement, comme il s'adresse aux hommes politiques, comme il s'adresse aux médecins, etc. Et l'élément important ici, c'est l'institutionnalisation de la journée du 17 mai comme journée de l'armée. Et c'est à cette occasion qu'il a eu des propos particuliers à ces gens pour qui une journée a été consacrée sur le plan national.
Alors, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Béni, au Nord Kivu, c'est Gérard Kazingoufou.
Gérard Kazingoufou, j'appelle de Béni. L'adresse du chef de l'État aux officiers de l'armée et de la police, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Car ces deux corps n'ont jamais eu de politique ni de critères de recrutement de ces éléments. Et alors, cette armée et police finit par devenir un lieu d'asile pour plus de 60% des déçus et des ratés sociaux qui se transforment en fait à des incontrôlés, compte tenu des conditions malsaines qui les accueillent au sein de l'armée et de la police.
Alain Atundu.
Je voudrais, avec tout le respect que je dois à cet auditeur qui est sensible au problème de la nation, je crois qu'il n'a pas saisi l'importance du discours du chef de l'État. J'ai fait allusion ici à la conversion républicaine de notre armée. Notre armée doit devenir républicaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit changer de mentalité. Aujourd'hui, c'est l'excellence, la discipline, c'est la loyauté, l'apolitisme. Elle doit changer de vision politique, s'adapter aux réalités démocratiques, n'est-ce pas? Il faut que l'armée sache qu'en tout ce qu'elle fait, elle doit respecter les droits de l'homme et que le Parlement, et donc l'opinion, a droit à la transparence. Il faudrait aussi qu'il y ait une conversion sociologique, c'est-à-dire éliminer du corps de l'armée tous ceux qui considèrent que ce corps noble est un refuge pour les brigands, pour les bandits. On a commencé par enlever les enfants et tous ceux qui ne s'adaptent pas aux exigences d'une armée régulière. Et donc, c'est un processus et je pense que l'auditeur doit être plus sensible à ça.
Merci André. Alain Atundu, Juvenal, Maître Juvenal Mounoubo, je vais prendre quelques réactions des auditeurs ici. C'est par exemple Oye Bangolo à Mosdar en province orientale qui dit ceci: je suis très content de la rencontre d'hier qui a eu lieu entre les chefs de l'État et les officiers de l'armée, mais mon souci est que le gouvernement congolais augmente les salaires des militaires et des policiers. Justin Essokobane de Bougne en province orientale, les bandits discours sont au même titre que les bons textes, mais l'application de ces derniers pose toujours problème. César Ndaora de Bounia en province orientale, l'interpellation du président au service de sécurité est d'emblée fondée, mais d'aucun doute de son applicabilité par les concernés qui ne savent sur quel pied danser parfois. Maître Juvenal Mounoubo.
Les salaires, c'est un élément important pour le policier. La solde, c'est un élément important pour le militaire parce que c'est de là que vient toute la motivation. On peut beau appeler quelqu'un à la loyauté, on peut beau l'appeler à l'assiduité, à la bravoure, à la vaillance, mais je crois que pour confirmer cette vaillance et pour qu'il soit réellement vaillant, je crois qu'il faut songer à ses conditions sociales. Le chef de l'État y a pensé, il en a parlé lors de son allocution. Je pense que le salaire, c'est ce salaire effectivement qui aidera le policier à se nourrir, à nourrir sa famille, à faire étudier ses enfants, à se soigner, à nouer les deux bouts du mois. Mais lorsque les militaires ne touchent pas sa solde, lorsque le policier ne touche pas son salaire, il perd. Au fil du temps, il perd la motivation nécessaire. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur de la province orientale. Tout à fait d'accord aussi avec celui-là qui pose les problèmes de l'applicabilité ou de l'application, de la mise en pratique des décisions. Le Congo a des belles lois, des bonnes lois, des lois bien faites. Nous avons des experts en matière de logistique. Nous avons des très bonnes lois, comme je le disais, mais le problème, c'est l'application. Et là, il faudrait se poser la question. Est-ce que les autres pays qui appliquent bien les lois, est-ce qu'ils sont plus experts que nous pour faire des lois? Nous sommes des bons faiseurs des lois, mais nous devons alors les appliquer. Et l'application, je crois, à mon avis, ici, c'est l'affaire de tous les décideurs. Donc, il y a bien entendu les autorités politiques qui en ont la charge au premier chef, mais il y a les exécutants à tous les niveaux. Au niveau de l'administration, même au niveau le plus bas, il faut arriver à appliquer cette loi-là. Bien évidemment que l'exemple, le bon signal doit provenir d'en haut, ce n'est que tout à fait normal. Donc je suis tout à fait d'accord avec le point de vue de ces auditeurs-là, je les partage entièrement, leurs préoccupations sont les miennes, et je crois que c'est le moment d'interpeller les autorités, en tout cas tous ceux qui ont le pouvoir, d'appliquer les lois pour le bien-être de tout le monde.
Merci Maître Juvenal. Mohamed Boulé, le chef de l'État, dans sa déclaration, a dit que les contrôles biométriques étaient... on avait fini avec le contrôle biométrique au sein des FRDC. À combien peut-on estimer les nombres d'éléments FRDC aujourd'hui?
Je n'ai pas le chiffre en tête et je ne m'adresserai pas à ça. Mais ce qui est important, qu'il faut noter ici en ce qui concerne ces contrôles biométriques, ça va permettre à quoi? Ça va permettre de savoir par catégorie des grades des militaires
Combien de militaires avons-nous par grade et par province, par exemple? Y compris même leur âge de naissance et leur ancienneté de service. Ça va permettre à connaître également leur niveau d'études et leur spécialisation. Et alors, à ce moment-là, on va exploiter ces données pour mettre à la retraite ce qu'il faut mettre à la retraite et pouvoir dégager ces postes-là pour envisager et faire des projections pour le recrutement. Et je voudrais dire, l'intervenant de tout à l'heure qui a parlé le premier des critères, il en a raison. Parce que grâce à ces contrôles biométriques, on saura est-ce qu'il y a combien de pourcentages de militaires non lisants, parce que l'UNESCO ne veut plus parler, entendre parler des analphabètes, parce qu'on estime que c'est un peu un terme injurié. Les non lisants, il y en a combien? Et tout ça, ça va permettre que d'ici là, lorsqu'on aura dégagé les effectifs qui sont en surplus, et ça va également mettre fin d'avoir dans les effectifs déclarés des fictifs. Et lorsqu'il y aura encore des cas avérés, il faudrait certainement que les commandants à différents niveaux puissent prendre des mesures disciplinaires, voire traduire devant la justice ceux qui s'hasarderaient à jouer sur les effectifs au motif qu'ils voudraient peut-être empocher des dividendes dans tout cela.
Merci Mohamed Boulay. On va prendre cette réaction pour vous Atundu, Alain Atundu. C'est Théo Kakuli de Butembo qui dit ceci. Ma question s'adresse à Monsieur Atundu. Pourquoi pendant tout ce mandat, le président de la République n'a jamais dîné avec les officiers, mais c'est seulement à quelques mois des élections qu'il se soucie de ce corps? Voilà.
Merci beaucoup. Je voudrais rappeler que c'est à l'occasion de la décision d'institutionnaliser la journée du 17 mai que le président a pensé qu'il était nécessaire qu'il s'adresse à ce corps spécialisé et qu'il mette à l'honneur ceux pour qui cette journée a été déclarée, en fait, chômée ou ils doivent être fêtés. Et donc, il faut attendre toujours une maturation. Le 17 mai 1998, c'était d'autres problèmes. Le 17 mai 2000, etc., c'était d'autres problèmes. Mais maintenant que l'armée avait l'impression de ne pas être traitée justement par l'opinion à cause des scandales intervenus en son sein, et le chef de l'État dit « rendons leur justice, reconnaissons au nom du peuple, au nom de toute la population » que nous savons exactement ce qu'ils font pour nous, malgré leurs défaillances. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas faire des procès d'intention, n'est-ce pas? Il n'y a pas un moment pour faire du bien ou reconnaître le mérite de quelqu'un.
Merci Alain Atundu. Nous tendons vers la fin de l'émission. Il nous reste 3 minutes pour conclure cette émission. Maître Juvénal, que faire pour accélérer la réforme de l'armée et la police afin d'avoir une armée dissuasive?
Je crois qu'il y a plusieurs axes. Hein. Le tout premier, c'est
résumez-vous, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
J'en ai parlé. Donc, il faut apprêter les lois, absolument. Il faut le faire. Et non seulement les lois organiques, il faut penser au statut, donc les actes, d'autres lois, évidemment. Il y a aussi des actes réglementaires. Il faut apprêter tout ça. C'est tout ce qu'on appelle cadre juridique et réglementaire. Je crois qu'il faut, pour la police, accélérer les recensements biométriques. Pourquoi? Parce que la maîtrise des objectifs, des effectifs, c'est un élément capital pour la programmation, pour la planification. Vous ne pouvez pas servir des gens dont vous ne connaissez pas les nombres au départ. Il faut d'abord arriver à réussir cette identification, ou je vais dire ici les recensements biométriques. C'est en cours. C'est en cours cette opération. Il y a des provinces qui l'ont déjà fait, comme les Katanga, les Kasaï.
Merci, Maître Juvénal.
Je crois que par-dessus tout, madame, il faut la volonté politique, parce que les lois peuvent être là. Les recensements peuvent être achevés.
Merci.
Les fonds peuvent être disponibilisés, mais ce qui couronne tout,
c'est la volonté politique.
C'est la volonté politique.
Merci, Maître Juvénal. Je considère celle aussi comme votre conclusion. Mohamed Boulay, en 30 secondes, votre conclusion. On n'a plus beaucoup de temps.
Mais c'est une interpellation que le chef de l'État a fait et en direction du Parlement pour que nous puissions accélérer. Je crois que lors de l'État de la Nation, il a aussi bien rappelé certaines choses et surtout aussi du gouvernement qui est chargé à gérer au quotidien pour s'approprier de ça, pour que pendant la présentation du budget à venir, que tout cela soit pris en compte.
Merci, honorable Boulay. Alain Atundu.
C'est une adresse de rappel de principes professionnels et des conditions d'existence. Parce que un auditeur a parlé tout à l'heure du solde, mais le solde n'est qu'une partie des conditions dont a besoin le militaire. Il faut améliorer les conditions d'existence, les casernes, etc. Il faut améliorer les soins de santé. N'est-ce pas ? Donc le chef de l'État a embrassé l'ensemble des problèmes qui se posent aux militaires et en des termes vraiment corrects.
Merci Alaa Tundu, merci à Jean-François Gando de Mbandaka, Jackson de Kinshasa, Berthe Madimbu de Kananga Kassa Occidental, Matumaini Franklin de Bukavu, Aline Rizi qui d'Uvira au sud Kivu. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Alain Rung sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Paul Badianyama qui était à la technique au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Diffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. 28 de programme sur la fréquence de la paix.